Chapitre 2. Pendant toutes les fenaisons, jour après jour, s'étaient amassés dans l'esprit du fermier Voumard de lourds nuages d'un courroux encore muet contre son second fils, ce gros Louis apathique et mou. De l'aube au soir, le père se demandait amèrement pourquoi les enfants, au lieu de tirer ressemblance de leur père et mère, reproduisent si souvent quelques fâcheux membres de la famille sur lequel, pour le repos de chacun, 6 pieds de terre pèsent maintenant, quelques mauvais sujets dont on revoit le visage en rêve pour se réveiller avec un soupir de soulagement, ou quelque incapable qui ne fut jamais qu'un fardeau pour les siens. Il est dur de retrouver dans la figure de son fils, dans ses gestes, dans sa façon paresseuse d'allonger ses coudes sur la table et de traîner les pieds, les allures, les traits d'un frère qui a été pendant 30 ans le tourment de votre existence, pour lequel on a labouré, semé et récolté dans l'amertume. Alors l'irritation, les anxiétés dont le fils est la cause, s'augmentent des rancunes du passé. On ne démêle plus bien ce qui est d'aujourd'hui, ce qui est d'autrefois, et vaguement, on en veut au fils de ce qu'il réveille le mauvais souvenir du frère. On voit d'avance tout le triste chemin qu'il faudra parcourir une fois encore, et il semble presque que ce soit le même être qui vous y fasse passer 2 fois. Le père Voumard ne manquait jamais de se dire, en regardant son fils Louis, « C'est bien ça, c'est mon frère Adolphe tout retrouvé. Il traînait son râteau derrière lui, juste comme ça. Quand la besogne pressait, qu'on voyait l'orage venir et que nos gens se dépêchaient dans le pré comme des fourmis, on était sûr de se buter contre lui dans un coin, à ronfler comme un bienheureux. Faut-il pourtant que ces choses-là arrivent 2 fois dans une famille ? Nous avons eu bien soin de ne pas relever le nom, crainte de ressemblance. » Comme le père Voumard était un homme de peu de paroles, patient d'ailleurs et concentré, et qu'il craignait une division domestique à cause du faible incompréhensible de la mère pour cet enfant de peu de promesses, il se taisait, haussant les épaules. Il ne laissait voir qu'à Samuel, et cela rarement encore, sa croissante exaspération. Mais de Samuel aussi, il était mécontent depuis plusieurs semaines, car le jeune homme n'avait plus de cœur au travail. Qu'est-ce qui était tombé sur ce garçon, autrefois si ardent, et qui aimait la terre? Il s'absorbait dans ses songeries, il n'avait pas même fait le compte des beaux chars de foin qu'on avait rentrés. Il abattait sa besogne assurément, mais sans gaieté, et quand il l'avait fini, il allait s'asseoir à l'écart, loin des rires, loin des propos. C'était avec un visible effort que, par moments, il se redressait, prenait un air insouciant, afin de donner le change. Et le père Voumard, blessé de l'indifférence de son fils pour ceux qui avaient donné cet été la bonne terre, plus profondément qu'il ne l'eût été par un manquement à son propre égard, cessait de s'alarmer pour tolérer et rager en lui-même. « Qu'il dise ce qui le tourmente à la fin. Les parents sont là pour trouver des remèdes. Ah, je ne sais pas ce qui me tient de le secouer, ce garçon. Il me fâche plus que Louis. Je n'ai jamais compté sur Louis qui n'a que du jus de rave dans les veines. » Mais Samuel, c'est tout moi et sa mère, je faisais fond sur lui, et voilà qu'il me manque dans la main, juste comme je commençais à m'appuyer dessus. Les enfants ne sont que tourments et vexations d'esprit. » Son mécontentement des aînés le rendait plus sévère pour les cadets, qui n'osaient ouvrir la bouche en sa présence, pour sa femme, à qui il reprochait mentalement sa déplorable faiblesse et son air, toutes les fois qu'il s'agissait de Samuel, d'en pouvoir dire long sur ce chapitre, si elle voulait. Mais elle ne voulait pas. « Il ne m'a rien dit. Je l'ai questionné. Il m'a répondu que nous n'y pouvions rien, ni toi, ni moi. Laisse-le donc tranquille. N'a-t-il pas le droit, à son âge, de garder ses affaires pour lui? Il fait son ouvrage, du reste. » « Le sien est celui de Louis, pour ce qui est de ça, » dit le fermier d'un ton morose, croisant les bras et se promenant à travers la chambre. « Bon, te voilà après Louis, maintenant. Qu'a-t-il fait, ce malheureux Louis ?»« Rien, comme à l'ordinaire. Je l'ai envoyé faucher la queue du petit pré, derrière le champ d'avoine, il en avait pour 1 heure au plus. Au moment de traire, j'envoie les petits à sa recherche, ils reviennent me dire qu'ils l'ont trouvé à dormir sur le murgier, comme un vagabond qui a bu plus que sa charge. S'il y avait un hôpital pour la maladie de dormir, je l'enverrais là. » J'aimerais mieux payer sa pension que de l'avoir sous les yeux une saison de plus. Il me boit le sang. « Je voudrais bien savoir, » dit sa femme, redressant son cou maigre, « Pourquoi c'est à moi que tu fais toutes ces plaintes? De qui tient-il, ce garçon? De mon côté ou du tien? Tu devrais te souvenir un peu de ton frère Adolphe. » Quand sa femme prononçait ce nom, le père Woumar ne pouvait que baisser la tête. Il n'y avait pas de paresseux dans la famille de sa femme. Samuel traversait une phase plus pénible que celle de la souffrance aiguë, où du moins l'on vibre et l'on tressaille, et où l'intensité de la souffrance elle-même vous distrait presque de sa cause. Il ne sentait rien, il avait le cœur lourd et froid comme une pierre. Tout lui était indifférent. Le matin, quand la journée grise s'étendait devant lui, vide d'espoir, il s'envoyait machinalement à sa tâche quotidienne et n'avait d'autre désir tout le jour que de se fatiguer assez pour s'endormir le soir sans penser à rien. Autrefois, il n'était pas bien lointain cet autrefois. Des ambitions, des projets lui faisaient trouver le lendemain trop lent à venir, trop lent à pousser l'herbe, trop lent à mûrir la moisson et les heures d'un long jour d'été trop courtes pour son ardeur au travail. Tout lui semblait bon alors, le travail, le repos, le pain et le rustique orgueil d'être un bon faucheur, et les journées qui commençaient dans le gris de l'aube et de la rosée, et les journées finissantes et la pensée de l'hiver durant lequel il espérait apprendre un peu le métier de charron afin d'être bon à tout quand il aurait son domaine à lui. Il avait toujours été convenu que jusqu'à 25 ans, il travaillerait pour la maison, pour la bourse commune, et qu'alors son père louerait pour lui un petit domaine et l'y établirait. 3 ou 4 vaches pour commencer, un cheval pour charrier le bois, de bons chars à échelle neufs et solides, des brouettes, des baquets, de beaux ustensiles à lait en bois blanc, lisses comme du satin, et pour le troupeau, un carillon de sonnaille suspendu à de larges colliers de cuir, bien d'autres choses encore qui coûteraient de bel argent. Mais Samuel savait que son père, tout économe qu'il fût, ne regarderait pas à la dépense pour établir convenablement le fils aîné. Ils en avaient parlé maintes fois ensemble, le dimanche après-midi, et l'image paisible, familière, d'une petite maison grise au large toit, avec son closet entouré de groseilliers et sa caisse d'œillets rouges au-dessus de la porte, leur était présente à tous deux durant ces entretiens. Cette vision simple contenait alors tout l'avenir et assez de bonheur pour une vie. Maintenant, le jeune homme s'en détournait avec une impatience amère, un dégoût morne de lui-même, de sa folie. Il ne tenait plus à rien. Même la facile abondance de son affection pour les siens semblait près de se tarir. Il supportait avec peine le gai tapage des petits. Il repoussait brusquement la sympathie qu'une ou deux fois sa mère essaya de lui offrir. La pensée qu'elle savait lui était intolérable. Renfermé en lui-même, il n'était conscient que de l'immense injustice des choses. Mais il se persuadait qu'il ne souffrait plus. Seul, la vue de Zoé le traversait encore d'une douleur lancinante, presque physique. Il évitait ses rencontres. Quand il raisonnait avec lui-même, il s'efforçait de se prouver que tout était comme autrefois. Mais, au bout du raisonnement, un découragement absolu s'emparait de lui. Il abandonnait l'effort et la blessure se rouvrait toute grande. Un soir, étant rentré du travail après les autres, il soupait seul au coin de la table, sous la petite fenêtre, coupée dans l'épaisseur du mur comme une meurtrière. L'arcade basse de la voûte était derrière lui, pleine d'ombre, le mur qui lui faisait face était tout noir, et dans le cadre lourd de l'étroite fenêtre, le vert délicieusement limpide du coin de ciel qui s'y enchâssait, faisait penser à une pierre précieuse, à quelque béryl mystique. Cette lumière claire et froide tombait sur le visage de Samuel, que sa mère observait sans rien dire, de l'autre bout de la cuisine où clignotait la petite étoile rouge de la lampe. Il était si étrangement changé, ce visage, depuis quelques semaines. Toutes les lignes s'en étaient accentuées. L'indécis du contour, de l'expression, qui est de la première jeunesse, la mobilité de la physionomie qu'une habitude de caractère n'a pas encore fixée, tout cela avait disparu et un air de tristesse absorbé, sévère, presque dur, avait creusé les traits comme d'un burin plus aigu dans un métal plus âpre. La mère soupira, elle n'osait rien dire. Samuel lui inspirait une sorte de crainte depuis qu'il était devenu silencieux. Elle savait bien à qui il pensait, mais comment y pensait-il ? Elle redoutait de prononcer des paroles qui peut-être seraient en désaccord avec la disposition de son fils. Tout à coup, on entendit le bruit aigre du trapon qui s'ouvrait dans le plancher de la grange, au-dessus de l'escalier, et la lueur d'une lanterne dessina les découpures à jour de la rampe noire. « C'est toi, Marie ! » cria la fermière. « Où est Samuel ? » demanda-t-il en se penchant sur la rampe. « Je voudrais bien savoir ce qu'est devenue la fourche anglaise. Entends-tu, Samuel ? Je demande où est la fourche anglaise. » « Je ne le sais pas, » répondit-il. Son air indifférent vexa le père, qui descendit rapidement les dernières marches, traversa la cuisine et vint se camper devant le jeune homme, les sourcils froncés, la mine mécontente. « Tu ne le sais pas, tu devrais le savoir. C'est ton affaire de veiller à ces choses. Je ne peux pas être partout, moi. Je me tue de travail et de soucis, et mon fils, qui devrait m'aider, ne s'intéresse à rien, ne sait rien. » Samuel leva la tête, il vit les cheveux grisonnants, les épaules courbées qui portaient le poids du jour, la figure sèche et tannée de ce rude paysan qui était son père. Il regarda les mains rugueuses qui travaillaient pour lui depuis son enfance, et comme il les regardait, son cœur se serra. Comment se pouvait-il que deux petites mains blanches et fières, qui ne lui avaient jamais donné que le bout de leurs doigts à effleurer, lui fussent devenues infiniment plus chères que ses mains bienfaisantes, protectrices du père et de la mère? Était-ce juste? Une sorte de compassion, un grand attendrissement le prit. « J'ai tort, mon père, » murmura-t-il. « Je ne dis pas cela, » fit le père subitement radouci. « Non, je ne dis pas cela. Tu as tes tracas. Du reste, tu travailles, je ne te reproche rien, mais l'esprit n'y est pas. » Et se retournant tout à coup, à un pas traînant qu'il entendit sous la porte, « Louis, où as-tu mis la fourche anglaise » tonna-t-il. Il s'ensuivit une explication aussi longue qu'embrouillée. La dernière fois que le fermier avait vu la fourche anglaise, c'était de l'un des bouts de la grange, sur un tas de foin éloigné, et il avait dit aussitôt à Louis « Va chercher cette fourche, de peur qu'on ne l'oublie dans le foin. » « Y es-tu allé ? Quand on t'a dit de faire une chose, on devrait tenir les yeux sur toi jusqu'à ce qu'elle soit faite. Y es-tu allé ?»« Attendez, je crois que oui, » dit Louis, se frottant lentement le nez pour éveiller sa mémoire. « Tâche d'en être sûr. Et après, où l'as-tu mise qu'on ne la trouve nulle part ?»« Ma foi, je l'ai oubliée, » dit-il, prenant son parti, « puisqu'aussi bien, il en faudrait venir là. » « Quelqu'un m'est venu demander autre chose. Il faut que je sois au bout de tout, » ajouta-t-il d'un air maussade. « C'est vrai que sans toi, nous aurions peine à tourner, » fit le père d'un air froidement méprisant. « Je vois comment la chose s'est faite. On a jeté du foin sur le tas et la fourche est enterrée là-dessous, faute qu'on m'ait obéi au bon moment. Elle sera mangée de rouille au printemps prochain, une fourche d'acier anglais qui m'a coûté 9 francs. Mais ça ne se passera pas ainsi. » La colère montait dans sa voix et dans ses yeux qui tenaient Louis fixé sur place. « Tu vas prendre la lanterne et monter à la grange et tu jetteras ce tas par terre jusqu'à ce que la fourche soit retrouvée. Marche !» Louis baissa la tête. Il s'en allait lentement, marmottant les vilains mots qu'il n'osait pas dire à haute voix. Son père fit 3 pas après lui et lui posa sa main sur l'épaule si lourdement que le garçon plia. « Demain matin, tu feras ton paquet et tu t'en iras, » dit-il d'une voix calme et dure, après laquelle on n'entendit plus rien, pas un son, pas un souffle, dans la vaste cuisine où chacun restait immobile, consterné. Instinctivement, Louis tourna les yeux vers sa mère, mais elle secoua la tête, lui faisant signe de s'éloigner. Elle connaissait son mari, elle connaissait cette voix, ce regard. 2 ou 3 fois dans leur vie mariée, il avait parlé ainsi, et ce qu'il avait ordonné s'était fait. La première fois, elle s'en souvenait, toute jeune femme, elle avait protesté, pleuré, puis boudé pendant 15 jours, sans que son mari changeât d'un iota sa détermination. Bien des années plus tard, quand la tante du pays de Gex avait souhaité d'avoir près d'elle un des garçons, sans doute pour en faire son héritier s'il lui plaisait, la mère voulait qu'on envoyât Louis. Mais à ses sollicitations, à ses fâcheries, le fermier avait opposé son opiniâtreté tranquille et victorieuse, sans même consentir à argumenter. Et chaque fois, tout au fond d'elle-même, sous l'irritation du désir contrarié, Madame Voumard avait malgré elle donné raison à son mari. Sans rien dire, traversant la cuisine, Elle vint se placer tout près de Samuel, et tandis que son mari, qui marchait à grands pas, avait le dos tourné, elle prit la main de son fils aîné, la serra, de ce mouvement rapide et tremblant qui supplie. « Tu m'aideras » murmura-t-elle des lèvres. « Je reconnais bien, » fit-elle à mi-voix, comme le père, dans sa promenade agitée, passait près d'elle, « je reconnais bien que Louis est exaspérant à la fin. Il a bonne intention, mais pas assez d'énergie, tout comme ton frère Adolphe, » ne put-elle se tenir d'ajouter. « Parfaitement, » dit son mari, s'arrêtant devant elle, les bras croisés, « mais il n'exploitera pas sa famille comme Adolphe l'a fait. Il ira gagner sa vie. » « Comment ? Que veux-tu qu'il fasse ? » plaida-t-elle. « Il n'a qu'à se placer comme domestique. »« Lui ? Et quand on saura qu'il est le fils Vouma, qu'en pensera-t-on ? » ?»« Ce qu'il voudra, c'est là le moindre de mes soucis. »« Il tournera mal si rôde le monde !» gémit la mère, laissant voir sa crainte la plus secrète. « Tu trouves peut-être qu'il tourne bien à la maison ?» « Père, ayons encore un peu de patience, » intercéda Samuel. « Je lui parlerai, il m'écoute assez. »« Je crois bien qu'il t'écoute, car après lui avoir parlé, tu lui fais son ouvrage, toi et Georges, pour lui donner le bon exemple. Moi aussi, dans mon jeune temps, je me suis échiné pour donner l'exemple à un fainéant. La belle avance, ces êtres-là, ça ne veut que manger et boire le travail des autres. J'en connais l'engeance et je ne veux pas !» cria-t-il, s'excitant à mesure que le souvenir des griefs d'autrefois redevenait cuisant, « que mes braves filles aient leur jeunesse empoisonnée comme j'ai eu la mienne. »« Chut, chut !» fit sa femme qui se dressa tout à coup. « Voici quelqu'un. » Elle poussa un soupir de délivrance en allant à la porte, recevoir celui qui arrivait de façon si opportune. « Bonsoir, prenez garde au seuil et sans vous commander, frottez un peu vos pieds sur le balai, » dit-elle, retenant l'homme pour donner à son mari le temps de se remettre. « Toujours mignarde, Madame Vumard, toujours mignarde. Soyez sans crainte, on a les semelles propres comme des marques à beurre. »« Comme des marques à beurre, » répéta-t-il en s'avançant dans la cuisine, car c'était la manie du voisin de se répéter à lui-même, en une sorte de décrescendo, tout ce qu'il disait. Il secoua la main du fermier, puis celle de Samuel, et s'assit. « Quoi de neuf ?» demanda Madame Vumard, qui voyait son mari peu disposé encore à causer. « bien des affaires par le monde, » répondit-il, hochant la tête. « Oui, et chacun a assez des siennes, » répondit la fermière d'un ton sec. « Savoir, savoir !» On s'instruit en regardant par-dessus le mur de son jardin, on apprend quelquefois des choses à son avantage. « Vous avez fini la moisson ?»« Oui, tout est rentré. »« Ah, c'est que vous avez des bras, trois garçons solides, bons travailleurs, et les petits déjà assez grands pour atteler autour des chats, et le père qui s'entend à faire marcher son monde. » La fermière regarda furtivement son homme, craignant quelque brusque sortie. Il continuait à se promener, les mains derrière le dos, la tête penchée. « Ça vous a-t-il étonné d'apprendre la mort de M. François Dumont ?» demanda tout à coup le voisin. « Quand un homme a 100 ans, on ne s'attend pas à ce qu'il vive encore un siècle, » répondit Mme Vumard. « bien non, je ne dis pas, mais ça m'a surpris tout de même, sans me surprendre. Vous savez qu'il déshérite son neveu Justin Perlet et qu'il laisse tout à l'autre ?» « Pas possible !» fit Madame Vumard, qui ne put réprimer cette marque d'intérêt. « Mais ça ne nous touche pas, » ajouta-t-elle. « bien si, plus que vous ne croyez. Du moins, enfin, vous verrez. Justin est dans une colère bouillante, il faut voir. Le domaine qu'il tient, l'érable, qui était au vieux Dumont, comme vous savez, est donc maintenant à l'autre neveu, et Justin, avec sa vieille, qui espérait bien se voir propriétaire à la fin de leur jour, jure qu'ils ne paieront pas un sou de fermage à un escroc, à un capteur de testament. Bref, des gros mots. Je ferais mieux de ne pas les répéter, car on ne sait jamais jusqu'où ça va, et puis on a des désagréments. Ce qui est sûr et certain, c'est que Justin déménage dans la quinzaine. Mais le bail, fit le père Vumard. Il n'y a pas de bail, c'est une affaire de famille, vous savez. On s'arrangera toujours, qu'on dit, et puis on s'arrange si bien qu'on serait prêt à se tirer dessus à grenaille. Voilà une maison qui va se trouver 100 mètres du jour au lendemain, la grange pleine de foin jusqu'au toit, et pas une âme pour le manger. Pas facile, à l'entrée de l'hiver, de trouver un fermier disposé à reprendre comme ça, subito. Et Justin, que va-t-il faire? Est-ce qu'il emmène ses vaches et tout le chétel? Demanda brusquement la fermière. Puis elle tint ses yeux fixés sur Samuel, comme pour lui faire entrer dans l'esprit, avec la réponse du voisin, son intention secrète à elle. On présume, voilà justement l'affaire, qu'il ne serait pas fâché de trouver preneur, dit l'officieux voisin. Du beau bétail, le sien, et qu'il laisserait pas cher. Et tout l'entrain de labourage et la laiterie en très bon état. Vous concevez que, pour se retirer au village dans un petit logement, ils n'ont besoin que de leurs meubles, et encore, ils céderaient peut-être un lit ou deux, une table, etc., à leur remplaçant. Ah, moi, si j'avais des garçons à établir !» Ayant dit ce mot, le voisin changea de conversation. Samuel, au bout de quelques instants, se leva et sortit. Il s'arrêta dans la cour pour regarder le ciel limpide comme un cristal, où tremblait la gouttelette d'argent d'une petite étoile, et le bouquet de frênes là-bas, avec ses troncs minces, élancés, et ses parasols transparents, sur l'horizon où s'enfonçait la vallée. Ces choses qu'il aimait, il souhaitait de ne plus les voir, car elles renouvelaient sans cesse sa peine. Une multitude d'impressions douloureuses y étaient liées. Une fois ou deux, l'idée de partir pour l'Amérique lui était revenue. Ce parti extrême n'était pas ce qu'il lui fallait. Il ne désirait pas oublier, non, sa peine était ce qu'il avait de plus cher. Mais il sentait qu'en glissant dans cette torpeur, il descendait au-dessous de lui-même. Il cherchait à reprendre pied. Cette offre indirecte qu'on venait faire à son père, n'était-ce pas le secours arrivant au temps opportun? Déjà quelque chose de son ancienne impétuosité se réveillait, son esprit s'agitait vers des perspectives nouvelles. Une responsabilité, une direction, quelque chose qu'il absorbât entièrement, voilà ce qu'il lui fallait, plutôt que le travail trop bien réglé de la maison, plutôt que la tâche toute taillée où l'esprit ne se faisait nul souci. Ce domaine d'érable n'était qu'à 3/4 d'heure de la maison grise, mais dans une autre vallée, avec un autre horizon, un sol différent, quelque chose de plus agreste et de plus rude, moins de champs et plus de pâturage. Le domaine était petit, 5 vaches au plus, dont on portait le lait à une fromagerie voisine. À lui seul, pensait Samuel, peut-être avec l'aide d'un petit bove pour l'automne, il ferait toute la besogne, et quel soulagement, quelle délivrance d'être seul. Il était là de composer son visage, de surveiller ses paroles, de craindre en s'endormant qu'un mot dit en rêve ne trahisse son secret. Il était là de rencontrer les regards de sa mère et de détourner les siens, là de s'asseoir à table et de s'entendre dire « Pourquoi ne manges-tu pas ?» De ne pouvoir se prendre la tête à deux mains quand il avait de ces mauvais moments où l'injustice de la vie lui semblait trop insupportable. Tout en marchant, Samuel tournait l'angle de la maison et s'approchait du pont de grange où il vit une lueur glisser sur l'herbe par la fente de la porte. Il monta, poussa le volet et regarda. Dans la demi-obscurité, où la lanterne enfonçait son grand éventail de rayons jaunes, tandis que la fenêtre à l'autre bout découpait un carré bleu sombre dans la paroi toute noire, il aperçut une ombre qui remuait au sommet de l'un des tas de foin sous les solives. « C'est toi, Louis ? L'as-tu trouvé ? » cria-t-il. « Ah, bien oui ! Il faudra que j'y passe la nuit à défaire ce tas !» répondit Louis, jetant avec une brassée de foin une volée de ces interjections qu'on n'a pas coutume d'imprimer. « Je te donnerai un coup de main, » dit Samuel, qui prit une fourche et grimpa sur le tas. Pendant quelques moments, ils travaillèrent sans rien dire. Samuel suivait ses pensées et s'y absorba si profondément qu'il tressaillit lorsque son frère se mit à parler. « Est-ce sérieux, crois-tu ? » « Quoi donc ? » fit-il sortant d'un rêve où il voyait la petite maison dont Zoé parlait là-haut sur la montagne, cette petite maison où toute la vaisselle était bleue, où la petite femme qui mettait le couvert était Zoé, et le voyageur qui se hâtait dans le joli chemin, sous les frênes, c'était lui. « Ce que le père m'a dit tout à l'heure, de faire mon paquet demain matin, est-ce sérieux ?»« Je crains que oui, » répondit Samuel sévèrement. « Le père a eu beaucoup de patience avec toi, mais tout a une fin. » Alors ce gros garçon lourd et sans volonté se laissa tomber dans le foin, la tête sur les genoux. On l'entendit qui pleurait. « On me traite comme un chien, gémit-il. Personne ne dit un mot pour moi. On me met à la porte comme un vagabond.
Ce n'est pas vrai, dit Samuel. Maman a essayé de parler au père, et tu sais bien qu'elle tient ton parti tant qu'elle peut. Tu ne le sais que trop, c'est à ça que tu te fies, mais il vient un moment où la corde casse. Tout le temps des foins, j'ai vu que le père se montait contre toi sans rien dire.
Est-ce ma faute à moi ? Dit Louis, relevant la tête. Si la chaleur m'incommode, le chaud m'endort, le froid aussi. Je ne sais pas comment je suis bâti, je crois que j'ai une maladie.
C'est possible, après tout, pensa Samuel, qui dit à haute voix, d'un ton plus indulgent. Mais il faut lutter, chacun doit lutter.
Oh, je lutterai bien, va, si seulement on me permet de rester à la maison. On n'a qu'à m'encourager et je marche aussi bien qu'un autre. Mais il faut me prendre par la douceur. Toi, tu sais me prendre. On a toujours bien marché ensemble, nous deux, pas vrai ?
C'est vrai, mon pauvre Louis, c'est vrai, répondit Samuel d'un ton distrait. Une idée se présentait à son esprit, mais il ne se hâtait pas de l'accueillir. Au lieu de la solitude bienfaisante, au lieu du silence où son cœur lassé se serait détendu, un nouveau devoir harassant, une nouvelle contrainte, voilà ce qui se présentait à son esprit. Non, c'était trop demandé, il ne pouvait se mettre ce fardeau sur les épaules. Il continua sa besogne sans rien dire. Louis se leva lentement, geignant toujours à demi-voix, puis il reprit la fourche et le foin recommença à tomber en cascade sur le plancher où il s'accumulait avec un bruissement doux. Au bout d'un moment, les dents de corne, en s'enfonçant dans le tas, grincèrent sur quelque chose de dur.
« Enfin, c'est de la chance, j'ai cru qu'on y passerait la nuit, » dit Louis qui fouilla l'endroit de son bras et en fit surgir les pointes aiguës de la fourche anglaise. « Ah, la petite malheureuse !»
Quand, au bout d'une grande heure, la grange fut remise en ordre, Samuel pensif redescendit à la cuisine. L'idée ne le quittait pas, c'était comme un aiguillon planté. Il vint s'asseoir près de sa mère qui épluchait des légumes, toute seule, sous la lampe suspendue à un arceau de la voûte. Elle lui fit un petit signe de tête un peu triste. Il vit qu'elle avait pleuré.
« Le père a changé d'idée ?» demanda Samuel. « Non, j'ai essayé de lui parler, mais tu le connais, c'est un roc. Il est bien disposé pour toi, » ajouta-t-elle, craignant qu'il ne se figurât que Louis seul avait sa sollicitude. « Il pense à cette affaire. Je ne serais pas étonnée qu'il ne t'établit orable. Dans ce cas, je prendrai Louis avec moi. » Et il s'étonna que ce fût après tout si facile à dire. Il était bien aise que ce mot prononcé le liât maintenant.
« Ah, si tu faisais cela !» dit la mère avec un tremblement dans la voix.
« Je le ferai. Nous nous entendons bien, Louis et moi. Je le garderai sous mes yeux, je l'encouragerai, et vous aurez du repos d'esprit, pauvre mère !»
Comme il parlait, quelque chose de son ancienne ardeur lui revint, un sourire passa dans ses yeux, et il se sentit, comme autrefois, impatient du lendemain, pour se mettre à l'œuvre.